Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Bonsoir, soyez les bienvenus. Vous êtes bien sur CNews, 20h, 21h, ça se dispute avec Julien Drey, fondateur du mouvement Réinventé. Soyez le bienvenu, cher Julien et Raphaël Stainville.
Vous aussi, bienvenue.
Ben oui, c'est la première fois que j'anime cette émission. C'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur.
La tête du feu, comme on dit.
Exactement. Et Raphaël Stainville, c'est aussi une première pour vous. Et vous êtes le rédacteur en chef à Valeurs Actuelles.
Bonsoir. Bonsoir, Julien.
Bonsoir.
Bonsoir à vous deux. Tout de suite, vous savez quoi ? C'est l'heure du flash. Et l'heure du flash, c'est avec Isabelle Piboulot.
C'est une catastrophe nationale. La France connaît une sécheresse historique. En métropole, 93 départements sur 96 font l'objet de restrictions d'eau. Plus d'une centaine de communes n'ont plus d'eau dans leur canalisation. Et Météo France prévient, la situation pourrait s'aggraver d'ici la mi-août, alors qu'une nouvelle hausse des températures est attendue demain. L'humanité joue avec un pistolet chargé, ce sont les mots du secrétaire général de l'ONU, dans un contexte où le risque nucléaire préoccupe. Entre la guerre en Ukraine, les tensions entre la Chine et les États-Unis ou encore le programme nucléaire iranien, Antonio Guterres s'est exprimé à Hiroshima dans le cadre des commémorations du bombardement atomique américain sur le Japon le 6 août 1945. La responsable d'Amnesty International en Ukraine démissionne. Une décision suite à la publication d'un rapport de l'ONG jeudi. Il reproche aux forces armées ukrainiennes de mettre en danger les civils en installant des infrastructures militaires dans des zones habitées. Dans un communiqué, Oksana Pokalchuk accuse Amnesty de vouloir servir la propagande russe. Et enfin, en MotoGP, Johan Zarco s'élancera en pole position du Grand Prix de Grande-Bretagne demain. Le Français, troisième du championnat du monde, a signé pour la deuxième fois cette saison le meilleur temps des qualifications. L'autre Français, Fabio Quartararo, leader du championnat, partira en quatrième position. La course sera à suivre dès 14h sur Canal+.
Voilà, ça se dispute, c'est parti. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h avec Julien Drey et Raphaël Stainville. On va commencer, messieurs, si vous le voulez bien, par deux faits divers. Tout d'abord, un rodéo qui a mal tourné cette nuit à Pontoise. Deux enfants, un garçon et une jeune fille âgée de 10 ans qui jouaient sur une esplanade de la ville ont été malheureusement percutés par une moto. La fillette souffre d'un grave traumatisme crânien. Son pronostic vital serait engagé. Le garçon est lui aussi dans un état très grave. Le conducteur de la moto s'est rendu au commissariat de Cergy cet après-midi. Il avait pris la fuite. Il a été placé en garde à vue. Il a 18 ans et n'est pas connu des services de police. Julien Drey, Raphaël Stainville, il y a une semaine, dimanche dernier, sur ce même plateau, j'abordais dans le cadre de Midi News cette thématique des rodéos. Et on essayait d'évoquer quelles solutions pour lutter contre les rodéos. Et je me souviens avoir terminé cette émission en disant « Je pense que nous serons amenés à en reparler ». Une semaine après, ce rodéo dramatique. Julien Drey, qu'est-ce qu'on fait ?
Ben non, c'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs années. On n'a pas trouvé de solution miracle encore. Hein. On a les policiers qui sont prudents parce que quand vous avez des rodéos et que vous êtes amenés à faire des courses-poursuites, et on a vu des fois des courses-poursuites qui tournaient encore pire. Voilà, donc les policiers ils sont prudents, mais les sanctions elles doivent être encore plus fermes. Malheureusement, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que là, c'est des jeunes de 18 ans, ils commencent, ils débutent, ils se prennent pour des conducteurs de professionnels. Et ce qui est terrible, c'est que c'est pas les conducteurs qui payent, c'est les enfants et c'est les familles. Et c'est ça qui est absolument insupportable. Alors peut-être que la question va se poser, c'est-à-dire quand on délivre des permis de conduire, les permis, notamment les permis moto, quand on vend des motos, peut-être que les choses devraient être mieux contrôlées aussi. Parce que 18 ans, ça veut dire qu'ils venaient juste de débuter.
Et on veut renforcer la loi. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des rodéos, notamment à Lyon, avec le célèbre groupe des Dalton. Et c'est vrai qu'on l'a évoqué au cours de l'émission il y a une semaine, en disant que le leader des Dalton avait été incarcéré. il avait été incarcéré. Mais quand il était en prison, il était le premier à diffuser sur les réseaux sociaux le fait d'être en prison. Et pendant ce temps-là, ses camarades manifestaient en moto devant la prison. Ils sont ressortis. Il est ressorti. Qu'ont ils fait en sortant de la prison ?
Ils ont recommencé.
Ils ont recommencé en bloquant une autoroute, le périphérique, etc. Et on a le sentiment que, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse...
Au-delà de la réponse pénale, et on y reviendra, j'imagine, mais justement, vous évoquez ces vidéos. On peut évoquer également un film qui a consacré finalement ces rodéos urbains comme une sorte de nouveau mode de vie, un lifestyle style qu'il faudrait célébrer.
Vous faites référence au film de Cannes. Hein.
Exactement. En fait, c'est pas un art de vivre. C'est, on le voit à travers ce fait divers, presque un art de mourir ou en tout cas de blesser. De semer la terreur. Et c'est ça qui est la première chose, je pense, qu'il faut pouvoir souligner avant que d'autres gamins s'emparent de moto pour s'essayer à ce genre de rodéo. La deuxième chose, c'est que depuis 2018, je crois, une loi existe. Jusqu'à présent, il y avait un grand vide juridique autour des rodéos urbains qui donne quelques moyens à la police et à la justice pour essayer d'empêcher ces phénomènes de s'étendre. Mais on le voit, et Julien Drey l'évoquait, les instructions qui sont faites aux policiers aujourd'hui sont floues, sinon parfois contradictoires. C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité d'agir, mais on le sait, on le voit, c'est dangereux et pour les policiers qui interviennent et encore plus pour ces jeunes qui sont à moto. Donc la plupart du temps, ils attendent que les faits soient commis, constatés, font appel à la vidéo et interpellent après ces rodéos. Et lorsqu'ils interpellent, ils saisissent les motos, mais ce qu'ils demandent aujourd'hui, et je pense qu'il faut entendre cette demande des policiers, c'est vraiment la destruction des motos, quand bien même, la plupart du temps, comme c'est évoqué très souvent, ce sont des motos qui sont prêtées.
Oui, c'est ça le problème. Justement, un syndicat de police nous le disait sur ce plateau. Ouais. Oui, on va les saisir, on va les casser. Mais le problème de fond, c'est que la plupart du temps, ceux qui trinquent, ce sont ceux qui se sont fait dérober leur moto.
Alors, toute la question est de savoir s'ils se sont fait dérober leur moto, si c'est une sorte de jeu de dupe où on prête la moto à quelqu'un mais où les propriétaires sont complices finalement de ceux qui les conduisent et se réclament après coup lorsque des infractions sont constatées avec leur véhicule en disant il m'a été volé. Honnêtement, il y a un flou et en tout cas, je crois que les policiers aujourd'hui sont de moins en moins dupes de la manière dont sont organisés ces rodéos avec la complicité de beaucoup de monde, propriétaires de motos également.
Je viens d'un dernier mot. Non,
ce qui est certain, c'est que par ailleurs, c'est difficile d'intervenir pendant un rodéo.
Oui, c'est difficile.
Il y a des vrais risques. Par contre, si un travail sérieux est fait de présence policière dans les quartiers et d'information, on les connaît, hein, ceux qui font des rodéos. C'est rare que ce soit quelqu'un un nouveau qui arrive comme ça tout d'un coup. Donc on a la possibilité d'intervenir en amont si le travail policier est bien fait.
Mais pour de la pédagogie.
Pas que de la pédagogie, de la répression aussi. Je veux dire, hein, on repère un certain nombre de choses et puis il y a une présence dissuasive. Parce que le problème qui est posé, c'est quoi ? C'est que le rodéo commence parce qu'il n'y a pas de présence policière dissuasive, de ronde, voilà. Et donc à ce moment-là, bah, une fois qu'il est commencé, c'est des ordres qui sont donnés à la radio, on converge. Et quand les voitures convergent, en plus, souvent, elles ne savent pas bien là où elles vont. Parce que qu'est-ce qu'elles vont trouver plutôt ? Elles savent où elles vont, mais elles ne savent pas très bien ce qu'elles vont trouver. Elles sont prudentes parce que souvent, des fois aussi, ça devient des pièges. C'est-à-dire qu'il y a un rodéo, on attire des voitures de police et puis après, elles se font caillasser et les policiers sont mis en péril. Donc c'est un ensemble. Mais qui renvoie à toute la sécurité de proximité qu'il faut reconstruire dans un certain nombre de quartiers. Et c'est ça la grande faille qu'il y a depuis plusieurs années, c'est qu'on a abandonné cette sécurité de proximité, cette présence policière de qualité, c'est-à-dire pas simplement une voiture de la BAC qui arrive de temps en temps, et c'est ça qui fait aussi qu'il y a des trous dans le filet.
Autre fait divers, à Villeneuve-Saint-Georges, un homme a été poignardé hier soir à 20h. Il est malheureusement décédé de ses blessures. Les images nous ont été fournies justement par votre journal, Raphaël Steinville, Valeurs Actuelles. L'auteur présumé est un homme de 29 ans, sans domicile fixe et d'origine afghane, selon vos sources. On écoute les précisions de Sandra Tchumbo et on débat juste après ensemble.
C'est une scène d'une rare violence qui s'est déroulée ce vendredi en pleine rue à Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne. Il est 20h quand une dispute éclate entre deux hommes situés près de la mairie. Selon Philippe Godin, le maire de la ville, les deux personnes se connaissaient.
Il y a eu une altercation entre deux personnes. Évidemment, il y a une personne qui est décédée et l'autre personne a pu être appréhendée très rapidement. Ces deux personnes discutaient, se sont rapprochées, discutaient. Et puis évidemment, le ton est monté. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, je ne sais pas.
Grièvement blessée par arme blanche, la victime a réussi à trouver refuge dans un hall d'immeuble avant de succomber à ses blessures. La police dénonce une augmentation des violences de rue et demande une réponse forte des autorités.
Il ne passe pas quelques jours sans qu'on ait ce type de violence avec armes et de façon répétée. Donc ça devient compliqué. On le dit, on le répète. Hein, la seule chose qui pourra éventuellement décourager certains individus de procéder de la sorte, bah c'est tout simplement une réponse pénale à la hauteur.
Le suspect interpellé ce samedi était en état d'alcoolémie et probablement sans domicile fixe, selon nos confrères de Valeurs Actuelles. Une enquête du chef d'homicide volontaire a été ouverte par le parquet de Créteil.
Julien Drey, c'est dramatique malheureusement et ce genre de faits divers se succèdent et on ne cesse de l'évoquer.
Ce qui est encore plus dramatique, c'est qu'il me semble qu'on est en train de franchir un palier. C'est-à-dire que et le danger, c'est une forme de banalisation et d'acceptation du fait que ce palier est franchi. C'est-à-dire qu'on a une violence, violence qui maintenant s'exprime ouvertement, on poignarde, on tue.
Il y a pas de limite.
La vie ne vaut pas grand-chose dans ces milieux-là. C'est quand même le plus souvent des populations qui sont ciblées. En termes de délinquance, et on voit bien que les policiers ont raison, ils disent il y a des réponses pénales, mais on le sait très bien, derrière il y a une partie de gens qui ne devraient pas être présents sur le territoire français, sont en situation régulière ou ont détourné les procédures et alors après, évidemment c'est des cycles infernaux qui se mettent en place. Ça veut dire que ça renvoie à la discussion précédente, ça veut dire que c'est toute notre politique de sécurité et de justice qui doit être repensée pour répondre à cette accentuation de la violence. Parce que sinon, ça terrorise tous nos concitoyens à juste titre.
Raphaël Stainville.
Alors, moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, c'est d'une banalité de plus en plus confondante et on voit se multiplier ce genre de faits divers dramatiques. Mais tous les sujets qu'on aborde finalement depuis 10 minutes, entre les rodéos urbains et cette attaque au couteau, ont en commun, alors je viendrai parler de populations ciblées, en fait, ont en commun un lien avec l'immigration incontrôlée, incontrôlable.
Et donc, là, auteur présumé, 29 ans, sans domicile fixe, c'est d'origine afghane.
Et donc, Julien Drey dit que la réponse...
Le rodéo, ce n'est pas le cas. Le rodéo, on peut
présumer de près ou de loin, c'est
on n'a pas de précision encore sur si ce n'est qu'il a 18 ans et qu'il n'était pas connu du service de police, Julien.
Mais vous dites que la réponse doit être judiciaire et sécuritaire, mais en fait la première des politiques qu'on devrait mener, c'est de revoir notre politique d'immigration. Il y a quelques jours, Gérald Darmanin faisait le lien entre la hausse de l'insécurité et la population immigrée. Si on ne s'attaque pas aux causes, ça ne sert à rien d'essayer de gérer les conséquences en mettant plus de sécurité, plus de justice. Il y a d'abord un problème évident, qui est de moins en moins nié en tout cas, qui est celui le problème de cette immigration incontrôlée.
Faisons attention parce que, je veux dire, ce qu'a fait le ministre d'ailleurs, et on ne peut pas le contester, il a fait le rapprochement entre une population d'origine étrangère et le taux de délinquance que ça connaissait.
Étrangère. Si on en rajoute d'origine étrangère, probablement que les chiffres seraient encore plus importants.
On va en parler dans quelques instants d'ailleurs.
Mais on peut pas, la montée de la violence, elle ne renvoie pas qu'au phénomène migratoire.
Elle vient l'aggraver.
Voilà, donc attention, parce que l'illusion, c'est de croire que parce qu'on va durcir certaines lois pour permettre des expulsions plus rapides, on va résoudre la montée de la violence dans la société française. On en résoudra une petite partie, mais on ne résoudra pas le reste. C'est pour ça que je vous ai posé la question sur le rodéo, parce que je suis à peu près certain que là, on va faire des enquêtes.
On aura peut-être des précisions d'ici.
Voilà, c'est certainement un jeune qui se lance parce qu'il a entendu, parce que ses copains, parce que etc. Donc la question de la montée de la violence dans la société française ne peut pas être réduite à un fétiche, la politique migratoire. Elle fait partie des choses, mais elle ne peut pas se réduire à ça. Parce que vous n'y pouvez rien, vous avez tout un système Il y a un problème de présence policière sur le territoire qui est très mal organisé. Vous avez une surpopulation.
Elles sont importantes. Mais encore une fois, lorsque vous dites, prenons juste la question migratoire, vous dites c'est pas seulement une question d'expulsion. Et ça, je suis d'accord avec vous. Là, encore une fois, on ne gère que les conséquences d'une politique migratoire incontrôlée, incontrôlable. Le problème, il faut le prendre à la base, d'abord dans la gestion des flux arrivants, et puis surtout peut-être dans une remise en cause de la politique de regroupement familial, ou en tout cas de la remise en cause peut-être de l'automaticité de l'acquisition de la nationalité. Oui. Si on ne s'empare pas de ces sujets, honnêtement, vous pouvez toujours dire qu'il faut plus de flics sur le terrain, plus de moyens, plus d'argent, mais il y a quand même un problème de fond qui ne se règle pas seulement à la marge avec quelques expulsions.
Vous ne pouvez pas réduire la situation de la montée de la violence en France à un phénomène simplement migratoire. Vous avez un problème d'organisation de notre présence policière. Bon, c'est-à-dire vous avez encore trop de policiers qui ne sont pas employés là où il faudrait être employés. Je vais prendre un exemple très simple.
Je suis d'accord avec vous.
La question de la sécurité des commissariats de police à Paris. On pourrait très bien avoir des systèmes vidéo avec des sas d'entrée comme on le fait pour des tas de services. Ça libérait un certain nombre de policiers qui sont de garde statique et qui ne peuvent pas faire leur tournée. Mais je prends cet exemple-là, je mets des dizaines d'autres.
Il n'y a pas de limite. On agresse même les commissariats de police. On en a parlé ce matin.
Mais vous avez toute une série de procédures administratives qui sont très lourdes et où les policiers pourraient être déchargés de ça dans l'enregistrement des plaintes, etc. pour pouvoir être mieux présents sur le terrain. Après, il y a une organisation de la présence sur le terrain. Parce que si vous n'avez pas une présence systématique et une présence qui connaît les populations, qui est en contact avec elles et qui est expérimentée, vous vous trouvez dans une position où la police est extérieure à ces cités-là et donc les tensions sont encore plus fortes. Et vous avez la chaîne pénale. La chaîne pénale, elle est en total dysfonctionnement. On le sait aujourd'hui. Donc croire que simplement, par un coup de baguette magique, on va dire on va stopper l'immigration, il n'y aura plus d'immigrés, donc on aura résolu les problèmes de la violence en France, c'est une illusion. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à faire en termes notamment de renvoi des jeunes, notamment des mineurs, en situation de délinquance. On le voit bien dans les sites de crack et des choses comme ça. Oui, ça fait partie. Mais attention de ne pas avoir une sorte de pensée totalement obsessionnelle en disant tout ça, c'est la faute aux immigrés. D'autant que toute une partie de la population d'origine étrangère qui est en situation régulière et subit aussi les conséquences de cela, elle a toujours l'impression d'être toujours précipitée au devant de la scène. Alors qu'elle-même, elle voudrait bien avoir la paix et être tranquille.
Raphaël Stainville, une petite réaction avant d'aborder justement la problématique de Gérald Darmanin, dont on parle beaucoup ces derniers temps.
Moi, je persiste et je signe. La question migratoire est essentielle. Je ne suis pas en train de dire que tous les immigrés sont des délinquants. En revanche, et tous les faits divers l'attestent quasiment.
Non, pas tous. Malheureusement, pas tous.
Quasiment tous les faits divers que nous commentons aujourd'hui, c'est soit une personne d'origine étrangère, soit une personne d'origine étrangère. C'est pas la même chose, et vous en conviendrez. En fait, je pense que la question principale qui devrait se poser, c'est comment, aujourd'hui, plutôt de continuer à fabriquer finalement presque des Français de papier, parce que c'est la même chose. C'est-à-dire que vous parlez de ces Français qui sont pleinement français, parfois ils ont une double nationalité, mais qui sont pleinement français, mais qui sont élevés dans la haine de la France. Ils peuvent être comme vous et moi, citoyens.
Cela, vous y pouvez rien. Aujourd'hui, c'est pas parce que vous avez changé les lois sur l'immigration que vous aiderez le problème. Parce qu'ils sont, là, ils sont citoyens français.
Regardez, voilà,
la gestion de la politique migratoire qui va résoudre ce problème-là.
Il s'agit pas seulement de savoir si à 18 ans, un jeune sait parler français. Je pense que la question de l'automaticité de la nationalité française devrait être interrogée. Prenez l'exemple, si à 18 ans ceux qui sont nés qui sont français automatiquement parce que nés en France à 18 ans, on s'inquiétait seulement de savoir s'ils avaient déjà un casier judiciaire, peut-être qu'on pourrait empêcher que ceux qui ont déjà un casier judiciaire deviennent automatiquement et pleinement français à 18 ans.
Ça, c'est d'abord compliqué parce que ça veut dire qu'il faudrait modifier le.
Il va falloir modifier
le droit du sol, donc l'acquisition de la nationalité française.
Il y a un certain nombre de politiques qui le réclament. Pas que Marine Le Pen, même à droite.
J'ai pas encore prononcé pourquoi tout de
suite. Non, mais
j'ai pas encore prononcé le nom de Marine Le Pen. J'ai encore désigné personne. Moi, je suis pas pavlovien. Hein. C'est pas parce que on parle immigré que j'ai tout de suite. Ça y est, elle a tort. Non, j'ai dit simplement que c'est une illusion de croire que la simple bonne gestion des flux migratoires résoudrait le problème de la violence. D'autant que le problème de la montée de la violence, ce n'est pas qu'un problème français. Hein. Je veux dire, il y a toute une société. Il y a malheureusement, nos voisins, ils connaissent aussi des montées de violence considérables. Je pense l'Espagne, etc.
Probablement parce qu'ils sont aussi frappés par une immigration de plus en plus massive.
Mais ce n'est pas qu'un problème migratoire. Vous avez un problème de valeur, vous avez un problème d'éducation, vous avez un problème de misère sociale, de ghetto. Voilà, tout ça, ça doit être traité. Si vous ne traitez pas tout ça, vous allez dans une fuite en avant qui fait d'ailleurs qu'une partie de la population sur laquelle vous voulez vous appuyer, c'est-à-dire la population étrangère en situation régulière, qui travaille, celle qui se levait tôt le matin pendant le Covid, etc., eh bien, celle-là, on en a besoin pour qu'elle nous aide à combattre cette violence-là.
Vous connaissez, par exemple, dans les flux migratoires, la part de l'immigration de travail, elle est très légère par rapport à toutes les autres migrations. L'immigration familiale, c'est 100 000 personnes, je crois, pour cette année, contre moins de 40 000 pour l'immigration du travail. Donc c'est pas c'est, bien
la
évidemment
totalité, la totalité des flux qui rentrent chaque année quand on fait c'est 110 000 je crois à peu près. C'est l'OFPRA qui monsieur j'ai oublié son nom, ça
170 000 plus les
mais donc c'est pas bon enfin on ne va pas épiloguer sur les chiffres et se perdre là-dedans. Je ne conteste pas le fait qu'il faut revoir notre politique migratoire. Je conteste simplement le fait que réduire la montée de la violence dans la société française simplement à un phénomène migratoire, c'est d'abord désigner un bouc émissaire des populations en disant il y a qu'elle, alors qu'il n'y a pas qu'elle, malheureusement. Et puis après, vous avez un problème, c'est que vous avez des citoyens français, alors vous dites vous-même, il y a un problème d'adhésion au pacte national, il y a un problème d'éducation dans un certain nombre de familles qui n'y arrivent plus parce qu'elles sont écrasées par le poids du contexte économique dans lequel elles vivent, etc. Voilà. Tout ça, si vous ne traitez pas tout ça en même temps, vous n'y arriverez pas. C'est pour ça que je pense que tous les politiques ont échoué ces dernières années parce qu'elles se sont focalisées que sur un aspect des choses et elles n'ont pas fait le fameux plan Marshall réclamé depuis plus de 20 ans par ceux qui sont sur le terrain et savent qu'il faut une bonne justice, une bonne police, une bonne éducation et qu'il faut y mettre le paquet.
Vous savez quoi ? On va parler de Gérald Darmanin. La transition est toute faite. On va évoquer la situation du ministre de l'Intérieur parce que le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est sur tous les fronts. Je vous propose de décliner justement en quelques points. Premier point, si vous en êtes d'accord, l'expulsion de l'imam Hassan Iqiyoussen qui a été rejeté hier par le tribunal administratif de Paris. Gérald Darmanin, on le sait, va faire appel de cette décision et cette décision surprend tout le monde. Honnêtement, c'est pas un bon point pour le ministre de l'Intérieur, Julien Dray.
C'est pas un bon point, mais surtout, je me pose la question de savoir comment le ministre de l'Intérieur a pu faire une faute pareille. Parce que j'écoute.
Vous parlez de faute, vous ?
Oui, je pose de faute, parce que ça veut dire que le dossier a été mal ficelé devant le tribunal administratif. Voilà. J'ai écouté d'ailleurs les débats sur la chaîne cet après-midi. Il y avait déjà plusieurs experts qui n'étaient c'était pas des jeunes gauchistes, hein, qui disaient il aurait pu passer par il aurait pu prendre notre chemin, le chemin judiciaire. Il a pris le chemin administratif. On savait qu'il y avait des risques. Et d'ailleurs, je vais vous faire une confidence. Il aurait dû avoir une alerte parce que je pense que les communiqués des deux membres de la France insoumise voulaient dire qu'ils avaient quelques informations. Quand ils sont lancés comme ça en disant attention, voilà, je pense qu'ils avaient des contacts avec des avocats qui leur avaient donné des éléments d'information. Donc ça aurait dû être une alerte pour le ministre. Parce que l'échec qu'il subit, alors il peut retourner cet échec en faisant un élément d'offensive politique et tout, mais moi ce qui m'intéresse c'est d'expulser cet imam au regard des propos qui sont tenus et du rôle qu'il joue d'influence dans la communauté, dans certaines communautés et auprès d'un certain nombre de jeunes. Voilà. Et ça, c'est ça qui pose problème.
Vous partagez cet avis, Raphaël Stainville. Le ministre de l'Intérieur est allé trop vite. Le dossier est mal ficelé.
Alors moi, je ne sais pas si le dossier en l'état est mal ficelé.
Coup de com'
aussi. On va attendre quand même, malgré tout, l'appel que Gérald Darmanin a fait pour contester la décision du tribunal administratif.
Alors, juste petite précision, puisque c'est l'un des thèmes que nous avons abordé au cours de cette journée sur CNews. Vous connaissez Georges Fedec, qui est notre consultant et ancien magistrat. Et je voulais qu'on soit très pédagogue sur cette décision qui surprend tout le monde. Et lorsqu'on écoute Georges Fenech, et j'ai plutôt tendance à l'écouter, il n'est pas certain que le Conseil d'État contredise le tribunal administratif.
Moi aussi alerté, parce que j'ai confiance dans le jugement de Georges que je connais.
Oui.
Bon, on a des désaccords, mais je sais que je l'ai eu comme collègue parlementaire et je savais qu'il fallait pas rigoler là-dessus. Et lui-même, il évoque le fait que finalement, on n'a pas forcément tapé là où il fallait taper.
Oui, alors moi, de toute façon, dès le départ, lorsque Gérald Darmanin a communiqué et a annoncé l'expulsion de cet imam, avant de m'emballer et de saluer le courage politique du ministre de l'Intérieur qui s'affronte et qui s'empare de vrais problèmes, j'ai quand même soulevé un certain nombre d'hypothèses, et notamment le fait que les recours étaient très nombreux, qui pouvaient permettre notamment à l'imam d'échapper à son expulsion. Donc peut-être qu'il a premièrement eu une communication intempestive, mais comme souvent ces derniers jours, comme s'il avait un besoin irrémédiable de faire oublier peut-être les errements et ses mensonges lors du fiasco du Stade de France. Je pense qu'il y a un effet de rattrapage aujourd'hui dans sa communication, dans l'annonce de son projet de loi, dans la manière dont il a voulu médiatiser à outrance cette expulsion de cet imam, alors qu'il aurait pu attendre le dernier moment s'assurant effectivement, parce qu'il y avait d'autres manières d'envisager cette expulsion pour communiquer.
Ce qui surprend, si vous me permettez cette remarque, dans le comportement du ministre de l'Intérieur actuel, j'ai l'impression de retrouver un mimétisme sarkozyste. C'est-à-dire, j'ai l'impression de retrouver...
Ça ne me surprend pas, d'où, Julien.
Oui, mais il aurait dû être instruit.
Je me disais à quel moment il va le sortir.
Non, je me disais, il reprend le schéma de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, dans
Chirac. Dont on dit que c'était son mentor. Voilà. C'était son mentor.
Oui, c'était son mentor, mais visiblement, on retrouve la même démarche. C'est-à-dire, moi, j'ai une énorme communication, avec d'ailleurs des résultats qui étaient largement discutables après, mais on a mis du temps parce que dans un premier temps, tout le monde était impressionné par l'agitation de Nicolas Sarkozy comme ministre de l'Intérieur. Après, on s'est rendu compte que malheureusement, on a eu les émeutes de 2005 qui montraient la limite de tout ça. Bon, voilà. Et j'ai l'impression que Gérard Darmanin, sur le fond, veut mettre ses pieds dans les pas de ce Nicolas Sarkozy. Il devrait faire attention parce que ça passe si bien. Alors ça a réussi parce que Nicolas
Sarkozy... Ça a réussi, mais je pense que...
J'étais en train de moi-même me dire, finalement ça a réussi parce que Nicolas Sarkozy a été élu.
Non mais je viendrai...
Président. Oui, mais on en parlera dans quelques années.
Voilà. Non mais si, ça a marché, sauf que cette communication qui lui a permis de se faire élire sur un programme très droitier, il l'a payé aussi très chèrement 5 ans plus tard parce que les résultats n'ont pas été du tout à la hauteur des attentes et de l'espoir qu'il avait pu susciter.
Non, mais moi, je pense qu'on est dans un moment où, par ailleurs, je ne pense pas que, comme dit la formule, l'histoire ne se répète jamais, quand elle se répète, c'est souvent farce. Je ne pense pas qu'on puisse recommencer la même chose. Parce qu'il y a un état d'exaspération de nos concitoyens qui fait que ce n'est pas les effets comme qui marchent aujourd'hui. C'est l'efficacité et la réalité de la politique sur le terrain. Parce qu'eux, ils la vivent au quotidien. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est que, par exemple, l'affaire du crack, elle soit résolue une bonne fois pour toutes. Elle peut être résolue facilement. On a un préfet, je le salue, qui, pour l'instant, au lieu de faire de la communication, essaye, pour une fois, d'avoir une démarche cohérente. Voilà. C'est pour ça que je pense que... On a peut-être un bon préfet. Voilà,
et vous avez pris connaissance, j'en suis persuadé, du sondage que CNews a publié sur les expulsions où 91% des Français. Ouais. C'est-à-dire que là, les Français ne vont pas comprendre.
Oui, mais vous avez raison. Et c'est là où l'état de droit, tel qu'il s'exprime, marque finalement, souligne finalement cette distorsion toujours plus grande entre finalement un gouvernement des juges, en tout cas c'est perçu comme tel, et le droit tel que les Français voudraient qu'il s'exprime. Ce sondage l'atteste, mais sur plein d'autres sujets, les Français sont beaucoup plus durs que cette justice qui est donnée.
Mais là, ce n'est pas la justice qui est en cause. Là, ce qui est en cause, c'est le fait qu'on connaît ces imams depuis un certain temps, qu'il y a des dossiers qui sont faits, qui sont suivis, que nos services, je le redis, les services de renseignement français ont énormément progressé par rapport à la situation d'il y a 10 ans. Parce qu'ils ont d'abord embauché des personnels compétents pour suivre. Donc on n'est pas désemparé par rapport à cette réalité. On la connaît. Le problème, c'est que maintenant, il faut une volonté politique. Et cette volonté politique passe y compris par des discussions avec les États d'origine. Vous avez vu que dans l'expulsion de l'imam, on avait l'accord du Maroc.
Le Maroc a donné son accord, oui.
Alors qu'on sait
que la plupart du temps, la difficulté, quand on veut expulser, c'est que les pays refusent.
Mais ça veut dire que... Mais je pense notamment que dans la manière dont on a disposé l'histoire des visas, on s'y est mal pris parce qu'on a mis tout le monde sur le même plan et qu'il y a des blocages maintenant qui sont liés à ça. Donc il faut, vous voyez, c'est moi je pense que à la question qui est posée, je dirais même la limite c'est 100% qui peut être contre. Voilà. C'est pas un problème de droite ou de gauche. Je veux dire, tous ceux qui sont attachés à l'identité du pays, à son bon fonctionnement, peuvent pas supporter que des gens viennent prêcher la haine contre notre pays.
Bah écoutez, je vous propose de parler de cette fameuse loi sur l'immigration juste après la pause publicité. A tout de suite, ne zappez pas, c'est Ça se dispute et vous êtes bien sûr CNews. Soyez les bienvenus, c'est Ça se dispute sur CNews avec mes deux invités, Julien Dray et Raphaël Steinville. On débat, on décrypte, mais tout de suite, c'est l'heure du flash. C'est l'heure du flash avec Isabelle Piboulot.
Deux incendies toujours actifs dans les Alpes de Haute-Provence. Plus de 1000 hectares ont été détruits au total. Les flammes ne représentent pas de menace pour la population, mais la forte sécheresse favorise leur progression. Près de 170 sapeurs-pompiers sont mobilisés sur un premier feu. Sur le second, 154 pompiers et militaires sont à pied d'œuvre. Les relations entre les États-Unis et la Chine se détériorent. Pékin a freiné sa coopération avec Washington sur le réchauffement climatique et d'autres domaines, alors que la Maison-Blanche demande à Pékin de cesser les exercices militaires lancés autour de Taïwan. L'île accuse l'armée chinoise de simuler une attaque quelques jours après la visite de Nancy Pelosi. Et enfin, en football, première journée du championnat d'Angleterre, Liverpool concède le nul 2-2 face à Fulham. Les Reds ont été menés deux fois au score avant de reprendre le dessus. Lors du temps additionnel, une frappe sur la transversale de Jordan Anderson fera manquer de prendre l'avantage. Les Reds avaient toujours remporté leur premier match de championnat depuis 5 ans.
Merci beaucoup Isabelle Piboulot, qu'on retrouvera d'ici 30 minutes. Allez, nous poursuivons sur le dossier Gérald Darmanin. Autre revers pour le ministre de l'Intérieur, cette fameuse loi dont nous parlions juste avant le journal, cette loi sur l'immigration. Il avait annoncé, on peut le dire, vous êtes d'accord avec vous messieurs, avec tambour, trompette, son examen en octobre. Sauf que, apparemment, la musique est tout autre. Et le président Macron et la première ministre Elisabeth Borne en ont décidé autrement. On va tout savoir avec notre spécialiste politique, Loïc Signor, on débat ensuite.
Gérald Darmanin, il a annoncé cette loi immigration à la suite de ce qui s'est passé à la Guillotière à Lyon, en disant qu'il allait accélérer les procédures de rapatriement, notamment grâce aux OQTF qui sont pas respectées en France. Donc il avait déjà ce texte dans les tiroirs, mais en annonçant cela sur le terrain à Lyon, ça a brusqué non seulement Emmanuel Macron, parce que cette loi n'était pas terminée, et ça a bousculé le calendrier du président de la République, qui était déjà d'ailleurs parti en vacances, et surtout ça a bousculé Elisabeth Borne, qui n'était pas forcément au courant de cette annonce, et là, elle a voulu faire un acte d'autorité, le premier de cette nouvelle première ministre, avec un homme fort du gouvernement, le ministre de l'Intérieur, numéro 3 du gouvernement, et qui a aussi des ambitions politiques personnelles. Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter en 2027. Il a des concurrents, notamment à droite, Bruno Le Maire, Édouard Philippe qui n'est plus au gouvernement, mais qui a créé son parti Horizon, qui fait partie de la majorité présidentielle. Gérald Darmanin veut apparaître comme un homme fort et un homme qui comptera à l'avenir en se plaçant sur la... Peut-être première préoccupation des Français, c'est la sécurité, c'est son domaine de compétence et il promet une loi. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, on est décidé autrement. On reprend l'ADN macroniste, c'est le débat, le grand débat sur l'immigration qui aura lieu avant le débat à l'Assemblée nationale. Ça se passera place Beauvau, chez Gérald Darmanin, il n'a pas perdu tous les arbitrages, il y aura tous les partis politiques, la société civile, les juges. Alors les oppositions disent encore de la com, encore un débat, c'est très macroniste, mais Gérald Darmanin, lui, avance et pourra toujours faire valoir qu'il a voulu faire ce texte, voulu faire passer cette loi. Et pour lui, c'est déjà... une petite étape de gagné, une petite étape de franchi. Faut-il encore que, dans les prochains mois, cette loi soit votée par toutes les représentations de l'Assemblée nationale.
Bon, Julien Dray, vous êtes d'accord avec l'analyse de Loïc Signor. Gérald Darmanin avance, mais là, il était stoppé quand même. Puis il était stoppé dans son élan, là, non ?
Non, je pense que l'analyse de Loïc est assez bonne, assez complète. Je nuancerai en disant que la sécurité est la première préoccupation des Français, parce que dans les sondages, c'est quand même le pouvoir d'achat.
C'est ce qui ressort. Hein.
Voilà, non, c'est le pouvoir d'achat.
Oui, c'est le pouvoir d'achat et la sécurité.
Après, la sécurité.
Oui, exactement.
En fait, sécurité et immigration, peut-être, si vous même les mettez en ensemble, sécurité. Peut-être que...
Non, je sais, non, en cumulant...
Raphaël, ne mélangez pas
parce que les deux sont liés, pardon.
Voilà, bon, dans l'ordre.
Ce que je veux dire par là, c'est que, par ailleurs, c'est une préoccupation légitime et elle est forte et elle est présente, et notamment, elle est présente sur tous les gens qui sont en situation sociale difficile, parce qu'ils n'ont pas tous les dispositifs modernes de vigilance, etc., ou les gardes privés, etc., à leur service. Après, la question, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans ce que dit Loïc, c'est qu'en fait, c'est pas sur le fond que les choses sont passées. La communication du ministère de l'Intérieur a été autre. Il a essayé de laisser entendre que lui, il voulait durcir les textes et que finalement, lui, il était le costaud.
J'y vais. Moi, j'y vais.
Et en face, c'était plus mou. Là, ce que dit Loïc, c'est que justement, c'est juste simplement sur la forme, le calendrier. Donc, ça renvoie à la discussion qu'on a eue, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un positionnement politique. Mais moi, je vais vous dire mon sentiment. Je trouve désagréable qu'on instrumentalise les questions de sécurité pour essayer d'en faire aujourd'hui une affaire de positionnement personnel. Parce que je pense que les problèmes sont tellement graves qu'il faut arriver...
C'est le sentiment que vous avez là ou pas, là, Julien ?
Moi, j'ai ce sentiment-là.
De la part du ministre de l'Intérieur ?
Je fais pas, bon, moi, je n'ai pas de conflit personnel particulier.
Non, mais c'est important ce que vous dites.
Avec M. Darmanin. Mais j'ai le sentiment qu'il y a, c'est ce que je vous ai dit, il y a un petit mimétisme sarkozyste, qu'on essaye de se donner de se mettre dans les habits de celui qui exprime la fermeté, etc. Alors, je fais remarquer d'abord que il n'est pas neuf dans ces habits-là. Ça fait 5 ans qu'il est là. Donc, il aurait mieux fait de commencer à avoir des très bons résultats, pouvoir dire, voyez, quand moi, je suis ministre, je suis...
Ça fait 2 ans qu'il est ministre de l'Intérieur.
Un peu plus, non?
Non,
2 ans.
Non, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans.
J'ai oublié.
Oui, ça fait 2 ans. Le temps passe vite, mais ça fait 2 ans.
J'avais effacé très rapidement son prédécesseur, je reconnais. Bon, mais 2 ans, c'est quand même un temps qui permet d'avoir, peut-être pas des résultats maximums, mais déjà avoir des premiers résultats.
Non, mais en revanche, le fait qu'il veuille aller vite, ça correspondait à la volonté, on l'évoquait par rapport à notre sondage CNews, ça correspondait à la volonté des Français aussi. Et là, on sait qu'il y a, il va y avoir débat. Mais débat, ça va prendre du temps.
Alors, je vais y venir sur le débat. Mais d'abord, ce que j'aimerais souligner, c'est qu'en fait, Gérald Darmanin est un homme seul. En tout cas, dans ce gouvernement, il est très seul à porter cette voix sur les questions de sécurité et d'immigration. Alors, vous me direz, il est le seul ministre de l'Intérieur. Mais pour autant, on n'a pas l'impression qu'il ait beaucoup de collègues pour le soutenir, l'appuyer. Il n'est pas jusqu'au président qui est extrêmement silencieux et ça a été souligné à maintes reprises jusque dans son intervention, sa dernière allocution le 14 juillet où pas une seule fois il n'a évoqué ces questions de sécurité intérieure. Après, le débat tel qu'aujourd'hui Elisabeth Borne veut qu'il s'impose avant que ce texte ne soit débattu à l'Assemblée, pardon, moi je suis un peu surpris parce que le débat, il aurait dû avoir lieu finalement pendant la présidentielle. Or, ces questions, elles ont été certes escamotées en raison de la crise ukrainienne, mais elles ont été aussi escamotées parce que Emmanuel Macron a fui le débat. Je pense que c'est des débats qui auraient dû avoir lieu pendant la présidentielle. Et ce qui est assez terrible, c'est que je pense qu'en plus, il y a une sorte de consensus, en tout cas de la société française, sur ces questions sécuritaires et migratoires. Mis à part, finalement, les partis qui s'écharpent entre l'extrême gauche et le reste des partis politiques, je pense qu'il y a une volonté vraiment d'infléchir le discours de manière plus ou moins forte sur ces questions de politique migratoire. Souvenez-vous, à droite, ils voulaient tous un référendum sur ces questions-là. Moi, je pense que la vraie question, et pendant 40 ans, le peuple français, finalement, n'a pas eu l'occasion de s'exprimer sur ces sujets, ça devrait passer par un référendum plutôt que par un petit débat à l'Assemblée.
Je pense que le référendum que vous évoquez est une forme de fuite en avant.
Expliquez-vous.
Très simplement parce que vous allez poser une question, est-ce que vous êtes pour maîtriser les flux migratoires ? Moi je vais répondre oui, je suis pour maîtriser les flux migratoires. Est-ce que vous êtes pour expulser automatiquement le délinquant en situation irrégulière qui a commis ? Je vais répondre oui. Bon, après, ce qui va m'intéresser, c'est comment on met en place les dispositifs et comment on met les moyens nécessaires. Parce que, vous savez, les débats à l'Assemblée nationale sur les lois sécurité... vous avez des tonnes de journaux officiels.
Oui.
Vous avez des tonnes de journaux officiels. Moi, dans toute mon expérience parlementaire, quasiment j'en avais un chaque année. Et chaque année, j'avais celui qui avait. C'était le concours de l'idée la plus intéressante, etc. Et pour autant, je vais vous dire une chose même, que souvent dans les préfectures, les employés des préfectures me confiaient. Ils disaient, nous-mêmes, on est perdus dans le maquis des textes qui n'arrêtent pas de changer. Ce qui fait que, bon, on est obligé sans arrêt de regarder, parce que ça change sans arrêt. La question qui était posée, c'est d'avoir plutôt des effectifs qui puissent traiter rapidement les demandes de droit d'asile, qui puissent traiter rapidement les demandes de regroupement, qui puissent se donner les informations, etc. Donc, le problème qui est posé aujourd'hui, c'est pour ça que je dis le référendum, c'est la fuite en avant politique. La question qui est posée, c'est la question des moyens, c'est la question de la présence, c'est la question de l'organisation, c'est la question de... Je vais prendre un autre exemple sur la chaîne pénale. Je considère
que... Je ne suis pas d'accord.
Je sais bien que vous n'êtes pas d'accord, mais je vous donne un exemple sur la chaîne pénale. Nous ne faisons pas de peine de réparation, donc nous mélangeons tout. Nous mélangeons tout, nous mélangeons le petit délinquant avec le grand délinquant. Et le petit délinquant en prison, lui, il a l'école du, il va avoir l'école il va prendre les galons pour pouvoir passer. Voilà. Tout ça pourquoi? Parce que les juges n'ont pas les moyens de chercher des peines de réparation. Et donc, ils préfèrent envoyer en prison parce que ça va plus vite. Et c'est une erreur. Voilà.
On va se faire très rapidement.
Oui, je suis pas d'accord parce que je pense que un certain nombre de questions relèvent d'un changement de la Constitution. C'est-à-dire que si on reste dans l'État, si on continue à penser à droit constant, qu'on sacralise l'État de droit et qu'on continue à accepter que l'Europe, la Cour européenne des droits de l'homme, nous impose un certain nombre de décisions qui s'appliquent après dans notre droit, on n'arrivera pas, notamment s'agissant des expulsions des étrangers à un résultat probant et significatif
Je vous donne un exemple que je n'arrête pas de développer, mais que je remets à la mode sur la table. Si nous pouvions, alors si vous voulez faire un référendum, on peut en faire un.
Et c'est pour ça qu'il faut un
On peut en faire un. Est-ce que vous êtes pour une politique de quotas? Et si vous répondez oui, à ce moment-là, vous êtes dans une situation où vous pouvez modifier votre loi sur les reconduites à la frontière, parce que vous pouvez créer les conditions d'une automaticité. Pourquoi? Parce qu'il y a des quotas, donc il n'y a pas de recours possible. On rentre dans les quotas ou on ne rentre pas. Si on est pris sur le territoire français parce qu'on n'a pas respecté, on n'a pas respecté les quotas, etc., on est expulsé automatiquement. Bon, ce dispositif quota automaticité, ça, vous pouvez le passer en référendum. Et vous verrez que ce ne sera pas ça qu'on fera.
Allez, on va. Alors, n'y voyez pas de relation malveillante, puisqu'on parlait du sort et des ambitions de Gérald Darmanin. J'ai envie de vous poser une question à tous les deux. On va parler politique, mais on va parler reconversion. Y a-t-il une vie après avoir été ministre? Je me tourne vers un spécialiste. Je me tourne vers Julien Drey qui n'a pas été ministre, mais y a-t-il... Voilà. Et ensuite, Raphaël Saint-Ville, on évoque ça, justement. Parce qu'en fait, un certain nombre... Alors, on va parler de Jean Castex, d'Emmanuel Wargon ou de Jean-Michel Blanquer, qui ont quitté le gouvernement, comme on sait, et qui ont essayé de se recaser. Mais j'aimerais entendre Julien Drey.
Alors, je ne peux pas vous répondre sur le ministre, parce que moi, j'ai été ministre qu'une nuit. Quand j'avais 33 ans, j'ai eu la malchance...
Le matin, c'était terminé.
Voilà, j'étais ministre le soir, nommé par Rocard, et
la reconversion était...
La reconversion, elle était que j'étais député.
Voilà.
Ça allait, que j'ai été élu député. Alors, c'est François Mitterrand qui était mécontent de ce qui s'était passé, qui a demandé à ce que je puisse aller devant le scrutin. Et c'est Jean-Luc Mélenchon qui était mon parrain à l'époque, vous voyez, politique. Alors après, moi, si vous voulez, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai été député pendant longtemps, j'étais vice-président de la région. Je ne vais pas vous dire que c'est facile, la reconversion. Parce qu'on ne fait pas ça par... Il y a des gens, certainement, qui font ça par carrière, par ambition. Mais dans mon expérience, la plupart des gens qui faisaient cela, qui exerçaient, ils le faisaient par passion. Mm-hmm. Par une passion qui était celle de l'intérêt général, celle qui était de trouver des solutions au pays. Et donc c'est vrai que s'éloigner des centres de décision, à un moment donné... on a du mal.
Alors, c'est difficile, hein,
On a du mal à l'admettre. C'est pas
le pouvoir.
Alors, c'est pas simplement le pouvoir.
Un peu.
Alors, oui, il y a l'aspect pouvoir.
Il y a l'aspect pouvoir quand même.
Non, mais je ne suis pas nier. Mais c'est de ne pas être au cœur de la bataille. Mmh. C'est vrai que des fois, je regarde des batailles à l'Assemblée nationale et j'ai un petit frisson.
Oui, vous êtes avec nous.
Oui, voilà. Alors, j'ai compensé grâce à CNews.
Voilà.
Voilà, ça a été une reconversion.
Ce thème vous tenez à cœur.
Oui, mais je trouve le sujet intéressant et le cas de Jean Castex à part, parce que finalement il a toujours été haut fonctionnaire. Mais il y a quand même un petit élément qui devrait interroger. Mais le cas d'Emmanuel Wargon, battu aux législatives, recasé à la commission de la régulation de l'énergie. Le cas d'Elisabeth Buzyn, battu au municipal et recasé aujourd'hui à la Cour des comptes, ça doit interroger. Moi, je trouve que c'est en contradiction avec même le discours d'Emmanuel Macron qui dit en permanence qu'il faut prendre son risque. Si on perd, il y a un moment, et donc c'est considéré que dans l'esprit du président que la politique c'est une mission, mais c'est pas une rente. Et là, on a l'impression que quelle que soit la situation, battu, perdant, de toute façon, il trouve toujours quelque chose. Et je pense que c'est ce que détestent les Français aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien qu'un certain nombre de ministres ont été battus. Sur un bilan, sur un certain nombre d'explications, qu'ils retrouvent quasiment immédiatement un poste avec des émoluments qui vont avec. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'en reviens quand même sur Jean Castex, que il est haut fonctionnaire, mais le poste qu'il
il est président de l'agence de financement des infrastructures de transport française.
Il bénéficie de sa retraite d'ancien premier ministre. Et là, c'est un poste qui est également rémunéré. Donc je pense que toujours, ce genre de questions qui se font un peu en catimini, c'est-à-dire qu'ils ont été auditionnés dans des commissions parlementaires.
En gros, pour qu'on comprenne bien votre état d'esprit, c'est quoi?
C'est que ce sont des rentes. C'est un système qui fonctionne en vase clos, qui est complètement endogame. J'ai l'impression que, finalement, par ces gestes, Emmanuel Macron entretient
les Français avec la politique, c'est ça?
Exactement. Et il entretient une cour, il s'achète des fidélités, alors que il serait peut-être mieux occupé à retrouver le goût du réel avec des postes en entreprise. Et je pense qu'ils ont suffisamment de talent et d'expérience pour aussi faire valoir celle-ci dans les entreprises.
Et très rapidement, un dernier mot sur ce sujet.
Le recasage,
c'est pas nouveau. Ça a toujours existé.
Mais c'est pas ça. Le recasage me pose problème, évidemment. J'en ai pas bénéficié parce que je ne sortais pas des grandes écoles. Et que je n'étais pas dans une promo qui permettait de... Voilà.
Ça, c'est fait.
Voilà. Non, ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, maintenant, il ne faut pas non plus avoir de naïveté. Quand vous avez été un personnage public, ce n'est pas si simple que ça de se recaser, y compris dans le privé. D'abord, parce que beaucoup de moi, j'ai rencontré un certain nombre de patrons qui me disent le privé, ce n'est pas pareil. Donc, vous arrêtez toute activité politique. Et puis, voilà. Et puis, vous avez du mal à dire, je vais arrêter toute activité politique, on me dit, non, il n'y a pas sa place. Donc, ce n'est pas aussi simple et aussi mécanique. C'est pour ça que si on veut aborder la question de la manière de se recaser, il faut l'aborder sereinement. On a eu des discussions, je me rappelle, avec Philippe Séguin à l'époque. J'avais proposé qu'on ouvre un certain nombre non pas de postes, il n'y a pas des postes réservés, mais la possibilité de reconversion. Je pense, par exemple, qu'un député de la commission des lois peut faire un très bon avocat, qu'il fasse une formation, qu'il ait même un examen à la fin, mais qu'il puisse... Et là, c'est une politique. Là, il n'y a pas de chouchoutage. Il fait les examens ou il peut faire une profession juridique. Voilà. Ça n'existe pas, cela. C'est-à-dire, soit vous êtes de l'ENA, et alors là, vous êtes protégé. Soit vous êtes copain du copain et vous êtes protégé. Soit sinon, vous êtes à la rue.
On va parler basket, si vous voulez bien. Qu'est-ce qui est fan de basket autour de cette table?
Moi j'aime bien le basket.
Il y a longtemps. Ouais.
Moi j'aime bien le sport en général. Mon physique ne traduit pas, non, mais j'aime bien le sport.
Mais moi je suis plutôt fan de basket aussi. Mais là on va parler du basket par une autre. Comme quoi parfois ça peut déborder sur un problème diplomatique et politique. Je vous rappelle les faits. Il s'agit d'une joueuse américaine, Brittney Griner, star américaine de basket féminin, qui a été condamnée en Russie à 9 ans d'emprisonnement dans une affaire controversée. C'est moins qu'on puisse dire de trafic de drogue. Du coup, on assiste, c'est ce que j'évoquais, à une véritable crise entre Washington et Moscou. On va écouter Sergueï Lavrov, qui, comme vous le savez, est le chef de la diplomatie russe. Et puis, on va écouter Anthony Blinken, qui est son homologue américain. Et puis, je vous demande de réagir ensuite.
Nous sommes prêts à discuter de ce sujet, mais seulement dans le cadre du canal de communication qui a été convenu par le président Vladimir Poutine et Joe Biden. Les Américains n'arrivent pas à travailler calmement et de façon professionnelle, non seulement sur ce sujet, mais sur beaucoup d'autres.
Nous avons présenté, comme vous le savez, une proposition substantielle sur laquelle la Russie devrait s'engager avec nous et ce que le ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov, a dit ce matin et a déclaré publiquement, c'est qu'ils sont prêts à s'engager par les canaux que nous avons établis et nous allons poursuivre dans cette voie.
Alors, comme quoi le sport, parfois, ça peut...
Ça fera certainement un très beau film américain dans quelques années.
Possible.
Voilà, je sens que les majors vont se jeter sur le sujet. Je pense à cette jeune basketteuse. Parce que
n'importe quelle basketteuse.
Voilà, c'est une grande basketteuse. Surtout, ce qui lui arrive est terrible. Je veux dire, parce que c'est depuis février.
Oui.
Et le séjour dans les prisons russes ne doit pas être des prisons 3 étoiles. Je pense qu'ils ont dû lui réserver.
Surtout vu les circonstances internationales actuelles.
Voilà. Et donc, c'est insupportable ce qui s'est passé. C'est insupportable parce que, d'abord, ce n'est pas une trafiquante de drogue. Elle avait du CBB, là où
ça
s'appelle.
Oui, c'est ça dans son...
Voilà, CDD, voilà. Je ne suis pas un spécialiste, excusez-moi.
Raphaël Stavine est là pour nous préciser.
Elle avait ça, mais
Non, je ne me permets pas, Raphaël.
Non, mais je veux dire, je ne veux pas dire que c'était bien, mais bon, c'est pas, elle n'était pas en train de passer des pains de drogue, etc. Donc la désigner comme une trafiquante et s'acharner sur elle, c'est indigne de la Russie et de ses gouvernements et de cette justice. Voilà. Et je pense qu'il devrait y avoir une mobilisation internationale. Là, il y aurait quelque chose à faire. Et notamment de la jeunesse. Parce que je pense que la jeunesse pourrait dire maintenant, ça suffit. Voilà. On n'a pas le droit de prendre cette jeune fille en otage comme elle est prise aujourd'hui. Et puis, ça ressemble. On est en train de nous refaire quoi, le scénario de la guerre froide? Bientôt, on va faire le pont aux espions, là, vous savez, c'est insupportable. Mais c'est pas une histoire de gouvernement. C'est une histoire d'opinion. Et là, je dis, on nous dit souvent, la jeunesse, etc., bah, la jeunesse de tous les pays, elle devrait dire, ça suffit.
Vous partagez cette opinion, Raphaël Steinville?
Oui, alors après, moi je trouve que cette histoire, elle est un peu plus complexe que ça, parce qu'on peut s'arrêter sur le rôle et la décision de la justice russe qui s'est montrée implacable pour vraiment quelque chose de très mineur. Mais pourquoi cette basketteuse américaine, depuis plusieurs saisons, va jouer pour un club? Parce que c'est ça, si elle était en Russie, c'était parce qu'elle joue, une fois la saison américaine terminée, pour un club russe où elle était grassement payée. Non, pas du tout. Pas du tout. Où elle est grassement payée parce qu'en fait, la ligue américaine sous-paye ses joueuses. Quand même, elles ont une renommée. Et donc, il y a quand même déjà une question intéressante sur la manière dont les États-Unis, eux aussi, traitent leurs joueuses de basket. Après, pour en revenir au fond de l'affaire, je comprends qu'il faille une mobilisation massive pour cette joueuse, mais semble-t-il, en tout cas c'est ce que je pouvais lire notamment ce matin dans le Figaro, il semblerait qu'on s'achemine vers des échanges et ça va être un coup rude pour les États-Unis puisque a priori c'est un marchand d'armes.
Oui. C'est ça ou c'est lunaire? D'un côté vous avez un marchand d'armes et de l'autre côté vous avez une basketteuse professionnelle.
Et en fait, plus l'opinion va se mobiliser, plus les enchères risquent de monter quant à la libération peut-être d'autres ressortissants russes aux États-Unis ou ailleurs.
Bah écoutez, je vous dis une chose. J'écoute ce que dit mon interlocuteur et je pense qu'il a apporté des précisions utiles. Je suis d'accord pour qu'on mette en cause le système aux États-Unis, etc. Mais on ne peut pas accepter qu'une jeune fille qui est une joueuse professionnelle soit prise en otage comme elle l'est. Et c'est là que je pense que, contrairement à ce qu'on se dit peut-être les uns et les autres, moi je pense que la Russie, si elle est confrontée à une vraie mobilisation européenne ou internationale de jeunes, avec des piquets de jeunes devant les ambassades, avec des prises de parole, ça sera moins rigolo que ce qu'elle croit. Et là, elle-même, elle aura des problèmes parce qu'il y a aussi une jeunesse russe qui entendra le message de la jeunesse internationale.
Allez, on va poursuivre parce que je vois que le temps passe et nous avons encore quelques thèmes à aborder ensemble. On va évoquer Taïwan, si vous voulez bien. On le sait, la visite, et c'est moins qu'on puisse dire, de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants aux États-Unis à Taïwan, a quelque peu, là aussi, crispé les relations entre la Chine et les États-Unis. On écoute les explications de Corentin Briot et on en débat ensuite tous les trois.
Les tensions sont toujours bel et bien présentes. Après la visite de Nancy Pelosi à Taïwan, la Chine a annoncé qu'elle comptait imposer des sanctions contre la présidente américaine de la Chambre des représentants. Le pays annonce également suspendre des négociations avec les États-Unis, ainsi qu'annuler plusieurs rencontres et réunions entre Chinois et Américains.
La Chine a réitéré et souligné à plusieurs reprises notre position de principe sur la question de Taïwan. Elle a fait remarquer que la situation actuelle dans le détroit de Taïwan est entièrement due à l'insistance de Nancy Pelosi à suivre sa propre voie, malgré la ferme opposition de la Chine.
Sur le territoire taïwanais, le gouvernement local affirme que des avions et navires de guerre chinois ont franchi la ligne médiane du détroit de Taïwan et critique le comportement provocateur de Pékin.
Aujourd'hui, la Chine a lancé des exercices militaires à tir réel dans des zones autour de Taïwan. Ce type de menace militaire continue et délibérément accrue, notamment le lancement dangereux des missiles dans certains des couloirs de transport les plus fréquentés au monde, est irresponsable, tant pour Taïwan que pour l'ensemble de la communauté internationale.
Du côté des États-Unis, Washington a accusé le gouvernement chinois de surréagir à la visite de Nancy Pelosi.
Alors, vous savez que Jean-Luc Mélenchon a réagi par rapport à cette affaire de Taïwan On vient de me donner encore une nouvelle communication.
Il a fait un deuxième blog.
Il a fait « Je n'ai fait que répéter la doctrine constante de notre pays depuis 1965 à propos de la Chine. Il n'y a qu'une seule Chine. Je poursuis. Et qu'on ne vienne pas me dire que mon propos revient à approuver tout ce que fait le gouvernement chinois. » Vous connaissez bien Jean-Luc Mélenchon.
Oui, je connais et je viens vous faire une confidence. Ce sujet-là, je l'ai abordé avec lui parce que j'ai fait un voyage parlementaire en 1990 à Taïwan et qu'il m'avait reproché ce voyage-là en me disant « Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas » Et je lui ai expliqué que j'avais été d'abord découvrir de moi-même la réalité de la situation et on avait un désaccord sur l'approche de ce que c'était que le rapport de force qui s'établissait. Mais là, il s'est passé avec ce deuxième blog de Jean-Luc Mélenchon, ce que je pressentais hier dans le débat. C'est-à-dire que l'intelligence de Jean-Luc Mélenchon, qui est réelle sur le plan politique, oui. C'est de dire, moi, je suis dans la continuité idéologique de ce qu'a été la France, la position internationale, etc. Et tous ceux qui se sont précipités, disant, Jean-Luc Mélenchon, c'est le complice des dictatures, des dictateurs, etc., se retrouvent déstabilisés par ses propos. Parce qu'il dit, mais moi, regardez, je suis en continuité. Le débat n'est pas celui-là. D'abord, il y a une erreur. Il y a eu une inflexion. Cette inflexion, elle a eu lieu en 1989. Elle est du fait de François Mitterrand après les événements de Tiananmen. Et il y a eu une tension très forte parce que Mitterrand a demandé justement à ce que on tire les conséquences de ce qui s'était passé. Il y a eu des visites ministérielles qui ont été organisées, notamment par le ministre Oskan quand il était ministre de l'Industrie, etc. Et puis, c'est vrai, la victoire de Jacques Chirac et ses successeurs ont fait qu'on est revenu à la politique traditionnelle et qu'on a méprisé, on a laissé tomber Taïwan. À tort, parce que moi, je pense que Taïwan, la meilleure chose qui puisse se faire, c'est pour ça que je soutiens pleinement la nouvelle présidente, pas la nouvelle, puisqu'elle a été réélue, la présidente.
Nancy Pelosi.
Non, pas Nancy Pelosi, la présidente taïwanaise.
Oui,
parce qu'elle est sur une ligne d'indépendance. Voilà. La vérité, c'est là-dessus qu'il faut avoir le débat avec Jean-Luc Mélenchon. Il dit « Taïwan appartient à la Chine ». Mais c'est aux Taïwanais de savoir s'ils veulent aller. Ils veulent prendre la décision de rester dans la Chine. Je veux dire, le schéma politique qu'on applique dans d'autres régions du monde, on dit « la libre disposition des peuples ». Il y a un peuple taïwanais maintenant. Ce n'est pas une colonie de dernière minute. Ça fait plus de 50 ans. La plupart des Taïwanais qui sont là n'ont jamais connu la Chine, ni communiste ou pas communiste. Ils ont connu Taïwan et ils se sentent d'abord Taïwanais. Vous avez d'ailleurs une production cinématographique taïwanaise de très grande qualité. C'est une population très cultivée, avec d'ailleurs un système de protection sociale qui est exemplaire dans la région. Bon, donc, je prends Jean-Luc Mélenchon au mot. Regardons ce que décide le peuple taïwanais. Ils ont le droit de décider. C'est pas quand même le parti communiste chinois qui va décider à la place du peuple taïwanais. Et je pense que les Taïwanais sont avertis d'une chose. C'est que le mensonge qu'a raconté la Chine en 1998 en disant « on fait un système, un pays et deux systèmes », il a trouvé ses limites avec Hong Kong. Et je comprends les Taïwanais qui n'ont pas envie d'être sous la dictature du parti communiste chinois.
Raphaël Stainville.
Ouais, juste
très rapidement, parce qu'il nous reste 1 minute 40.
Juste pour vous répondre, il me semble que
Catherine. Vous n'allez pas défendre la Chine communiste.
Non, pas du tout.
Non, non, mais ça serait la surprise.
Non, en revanche, souligner la cohérence de Jean-Luc Mélenchon. Oui, parce que c'est des propos qui.
Non, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent.
Attendez,
30 secondes.
Non, mais non.
Allez-y.
Il se trouve qu'en plus, Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, dans Libération, rappelait également que la doctrine de la France, s'agissant de la Chine, avec alors vous pouvez évoquer cette inflexion qui a eu lieu sous Mitterrand, mais le fait est que la traduction aujourd'hui de cette politique et cette doctrine ancienne, elle est toujours la matrice de la politique étrangère de la France à l'égard de Taïwan.
Je ne m'attendais pas à ce que vous défendiez Jean-Luc Mélenchon sur cette question-là. Ça, c'est la surprise de ce soir. On aura peut-être l'occasion d'en discuter. Mais moi, je débat avec Jean-Luc Mélenchon sur ses principes politiques à lui. C'est pas sur la politique diplomatique que Jean-Luc Mélenchon, il est pas ministre de, il est pas, c'est pas un diplomate, etc. Je mets Jean-Luc Mélenchon en contradiction avec ses principes. Les principes, c'est que Taïwan, c'est pas vrai, n'est pas dans l'univers du Parti communiste chinois.
Mais après,
voilà.
Après
et donc, moi, c'est au peuple taïwanais de décider.
Après, ce qui me paraît intéressant dans cette séquence, c'est moins la réaction de Jean-Luc Mélenchon ou celle de Catherine Colonna. Que du rôle quand même problématique de Nancy Pelosi dans ce voyage. Elle a quand même, on peut s'interroger sur l'opportunité d'aller...
Quelle défense du gouvernement chinois.
Mais non, mais...
Quelle défense
mais
du gouvernement chinois. Ça, c'est une surprise.
Non, mais, et Julien Drey, vous n'ignorez pas que même les Taïwanais...
Ils étaient assez frileux.
Non, c'est pas...
Ils n'étaient pas demandeurs de la visite, mais je sais, parce que Jean-Luc Mélenchon le dit lui-même, regardez au Japon comment elle a été accusée, etc. Elle a été accusée, comment elle a été reçue, etc. Les Taïwanais, ils sont prudents, parce qu'eux, ils sont en première ligne.
Ah bah,
mais je peux vous dire une chose. Moi, j'ai confiance dans la population taïwanaise. Et je pense que, contrairement à ce que pense le Parti communiste chinois, ça ne sera pas aussi simple que ça de s'attaquer à Taïwan.
Messieurs, je regarde la pendule. Ça se dispute. C'est terminé.
Il ne me reste plus qu'à vous remercier chaleureusement. Merci, merci Julien Drey. Merci Raphaël Steinville. C'est bien passé pour cette première ?
Très bien.
Pété.
Et pour vous aussi.
Écoutez, c'était un vrai bonheur de vous avoir. On n'a pas pu parler super profit. On voulait aborder également Israël, mais vous serez là demain avec moi.
Ouais. Je serai encore là demain. Alors.
Bon, eh ben, on parlera de tout
avec
ça
plaisir,
demain.
Il s'agit de parler d'Israël.
Exactement. Merci mille fois pour votre participation. Je voulais remercier Anthony Rodriguez et Corentin Briot qui m'ont aidé à préparer ce Ça se dispute. Moi, je vous retrouve. Eh bien, je vous retrouve à 22h pour, on peut tous dire, à 22h. Et puis tout de suite, place à la belle histoire de France. La soirée se poursuit et vous êtes bien sur CNews. À tout à l'heure, 22h.